Rendez-vous sur Facebook DW Afrique.
Peut-être la première chose à signaler, c'est que lorsque nous comparons la situation d'un pays comme le Niger, eh bien, nous nous rendons compte qu'il y a 20 ans, cette situation de la faim était considérée comme extrêmement alarmante. Et aujourd'hui, la situation est grave. Donc ça signifie qu'il y a eu des progrès considérables qui ont été faits. Cependant, cela ne suffit pas, hélas. La faim, la pauvreté demeurent des problèmes importants. Ceci étant, il y a deux facteurs fondamentaux qui aggravent cette situation. Et le premier facteur, c'est justement le changement climatique. Alors pourquoi nous disons que le changement climatique aggrave la situation? C'est que dans les pays du Sahel, et notamment au Niger, eh bien, les sécheresses et les inondations se relaient.
Est-ce que ce n'est pas trop facile de dire que c'est le changement climatique qui est à la base de cette situation? Les autorités nigériennes peut-être ne font pas grand-chose, non?
Nous ne dirons pas ça. Alors nous ne disons pas que les changements climatiques sont la cause. Nous disons que les changements climatiques constituent un facteur aggravant. Est-ce que vous voyez? Lorsque, par exemple, la saison des pluies commence plus tôt qu'avant et est plus courte, c'est-à-dire non plus 4 mois, mais 2 mois et demi, et que la période de soudure commence plus tôt et dure plus longtemps, c'est-à-dire non plus 3 mois comme avant, mais 5 à 6 mois, ben, reconnaissez que c'est un souci sérieux. Et du coup, pour les populations, de façon très concrète, eh bien, il n'y a plus assez de récolte, c'est-à-dire que la récolte qui suffisait à faire le pont, la période de soudure, eh bien, ne suffit plus, tout simplement. C'est ce que vous voyez.
Oui, et quelles sont les actions menées par votre ONG pour aider justement les pays touchés par cette famine aggravée?
Alors, nous faisons beaucoup de choses. De façon générale, nous faisons des projets d'urgence, mais aussi des projets de résilience. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que lorsque les populations, comme il y a aussi la question des conflits, que les populations sont en crise, eh bien, nous intervenons tout de suite par des distributions de vivres, que ce soit du mil, du sorgho, de l'huile, du sel, de l'eau, des savons, etc. Mais, parallèlement, il est pour nous important que nous appuyons les populations à se prendre en charge elles-mêmes. C'est-à-dire que, eh bien, nous les aidons à augmenter leur production agricole. Comment nous faisons cela? Eh bien, déjà, nous les aidons à récupérer des terres dégradées, c'est-à-dire des terres qui ne sont plus fertiles, nous les rendons fertiles. Les 2 dernières années, par exemple, au Niger, WHH a récupéré 1500 hectares de terres au profit de 6500 familles, c'est-à-dire 45 000 personnes. Mmh. Une deuxième chose que nous faisons, qui est très importante aussi, eh bien, c'est que nous introduisons des variétés de semences améliorées. Ce sont des variétés qui ont des cycles courts, c'est-à-dire qui grandissent vite, qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau et qui ne sont pas aussi facilement attaquables par les insectes ou bien les ennemis des cultures ou bien même des maladies.
Vous dites que le changement climatique aggrave la faim dans les pays du Sahel. Est-ce qu'il ne serait pas bien opportun d'aider les populations à faire face à ces changements climatiques? Est-ce qu'elles ne dégradent pas le climat?
Non, c'est exactement ce que nous faisons. Lorsque nous faisons de la récupération de terres dégradées, justement, alors nous protégeons le sol, nous rendons ce sol-là fertile, puis nous donnons par là même l'opportunité aux populations d'avoir un peu plus de revenus, puisque quand nous faisons du maraîchage, par exemple, eh bien, les femmes qui en profitent ou les hommes qui en profitent, d'une certaine façon, d'un côté, c'est pour la consommation, mais de l'autre, il y a un petit surplus qui est vendu. Mais nous agissons de façon multisectorielle et intégrée. Alors, je vous ai parlé de notre premier volet, qui est tout ce qui est sécurité alimentaire et nutrition, mais un deuxième volet qui est tout ce qui est eau, hygiène, assainissement. Donc, nous faisons des infrastructures sanitaires. Donc c'est des latrines et de l'eau, à la fois pour le bétail que pour les humains. Et puis un troisième volet très important, qui est les activités génératrices de revenus. Et là, nous aidons les populations, les groupements comme les individus, à faire des petits business. Nous les accompagnons, nous les formons, et bien, de sorte que ces populations-là puissent, ou ces personnes en tout cas, puissent avoir accès elles-mêmes à un revenu. Je vous donnerai l'exemple de groupements féminins que nous avons appuyés à Tillabéri, à Banjo notamment, qui s'appelle Karambassa. Eh bien, ces femmes-là, elles ont acheté un moulin. Avec ce moulin, elles transforment du sésame et de l'arachide, qu'elles transforment en huile de sésame huile d'arachide, pâte d'arachide et des gâteaux, eh bien, elles sont devenues autonomes. Vous savez, 18 mois après la fermeture de ce projet, nous les avons visitées il y a quelques semaines. Ça fonctionne, elles ont de l'argent en caisse. Et tenez-vous bien, le moulin est devenu une sorte de banque qui donne du crédit à taux zéro aux membres de ce groupement-là. Donc, il y a tout ce paquet que nous faisons, plus tout ce qui est réduction de risque de catastrophe et aussi tout ce qui va dans le sens de la cohésion sociale, le vivre ensemble pacifique. Voilà un peu le volet, le paquet que nous proposons aux populations au Niger.
Et quels sont les autres pays de la région qui sont touchés par cette famine aggravée?
Alors, la population qui est touchée, on va dire, par l'insécurité alimentaire dans la zone, c'est notamment les pays d'à côté, le Mali, le Burkina Faso, naturellement, le Nigeria, mais il y a des situations plus graves encore comme le Tchad ou la Centrafrique, qui sont un peu plus loin de nous.